ça va toi aujourd'hui?
Là je me sens bizarre.
Je sais pas, je suis calme.
Je te jure.
Oh, j'ai encore un truc à dire.
Non, ça va pas trop.
Oh là là, je me sens bizarre.
C'est comme cool, je suis en train de raconter.
J'ai encore un truc à dire.
Qu'est-ce qui se passe ici?
Mais qu'est-ce qu'elle raconte?
Bah ouais, on passe à la radio.
Eh bien, chers auditeurs, bonjour, vous êtes sur Radio Panique 105.4 et vous écoutez Silence Radio. Aujourd'hui, nous parlons de narcissisme. Thomas, tu vas commencer par nous lire un résumé de l'histoire tragique de Narcisse, racontée par Édipe.
Oui, tout à fait. Donc, c'est raconté par... pas par Édipe, mais par... Je reviens plus.
Ovide,
c'est ça, voilà. Et c'est moi qui ai fait l'erreur, désolé. Donc, dans le livre des Métamorphoses d'Œdipe, Narcisse est un enfant si beau qu'il est désiré par nombre de jeunes hommes et de jeunes filles. Face aux sollicitations de sa personne, Narcisse répond par le dédain. Un jour, dans une forêt où Narcisse est parti chasser avec une troupe de compagnons, une nymphe le voit et s'enflamme pour lui. C'est la nymphe Écho, qui ne parle jamais la première et ne répond jamais par le silence. Elle ne peut que redoubler les sons, répéter les paroles entendues. Narcisse a pris un chemin qui l'a éloigné de sa troupe. Il dit « N'y a-t-il pas quelqu'un ici ?» Écho lui répond « Si, quelqu'un !»« Viens ici, dit l'enfant. Réunissons-nous. » La nymphe s'empresse de lui renvoyer ses derniers sons. « Unissons-nous. » Elle s'avance pour jeter ses bras autour de son cou, mais Narcisse la fuit et la rejette en paroles. Parmi les nymphes, les jeunes hommes et femmes, tous victimes de ses dédains, l'un d'eux s'écrie, les mains levées au ciel, qu'il aime donc à son tour, et de même ne puisse posséder l'objet de son amour. C'est près d'une source limpide aux eaux brillantes, entourée de gazon, que l'enfant fatigué par l'ardeur de la chasse s'est étendu. Il tente d'apaiser sa soif, mais alors une autre soif grandit en lui. Pendant qu'il boit, séduit par l'image de sa beauté, qu'il aperçoit, il s'éprend d'un reflet sans connaissance, sans consistance. Il prend pour son corps ce qui n'est qu'une ombre, il se désire dans son ignorance lui-même. Il se décerne des louanges, ressent des ardeurs que lui-même a inspirées. Il veut saisir le coup aperçu, plonge ses bras dans l'eau, sans les refermer sur soi. Il souffre qu'une mince couche d'eau empêche son union avec son reflet. Il se rend compte que l'erreur qu'il abuse dans son amour est grande, mais ne peut empêcher ses tentatives pour rejoindre son reflet. Pour enfin l'atteindre, il voudrait être dissocié de son propre corps et à force, épuisé par l'amour, il perd ses forces et dépérit. Il finit par poser de fatigue, sa tête sur l'herbe verte et la nuit ferme ses yeux, emplis d'admiration pour la beauté de leur maître. Donc prendre sa personne pour objet de son amour et trop s'aimer, c'est ce que beaucoup de personnes entendent par le terme narcissisme. Pourtant, le narcissisme est essentiel dans notre construction psychique. Il est un élément fondamental de notre construction, de notre personnalité, et peut se révéler un allié puissant pour vivre sa vie de façon joyeuse et sereine. Le narcissisme est même essentiel pour faire face à ses frustrations et développe chez les êtres humains de la résilience face aux épreuves de la vie. Alors comment bien vivre avec son narcissisme? Quels sont les pièges qui l'empêchent de se construire sainement? Quels sont les trucs et astuces pour développer un narcissisme à l'opposé d'une pathologie? Ces questions, nous allons tenter d'y répondre en compagnie de notre invité.
Et notre invité, c'est Sophie Musel, qui est metteur en scène à la troupe L'Appétit des Indigestes, voilà. Et nous espérons aussi avoir comme invité Monsieur Pierre Smet, qui devrait arriver incessamment sous peu. Voilà, donc on espère le voir arriver. Il est psychanalyste et travaille donc au centre de santé mentale, le SAS à Evere.
Donc pour nous plonger un peu plus dans le thème du narcissisme, je vous propose tout de suite d'écouter un micro-trottoir qui a été réalisé par moi et Aline aux alentours de la place Sainte-Catherine.
Ce que c'est le narcissisme pour vous?
Le narcissisme, eh ben c'est avoir un amour démesuré de soi-même.
Et c'est, enfin, c'est peut-être voir les choses ou analyser les choses sous l'angle de soi-même en fait. Donc assez égocentré finalement, mais égocentré dans le sens négatif du terme, parce que moi je crois que l'égocentrisme est nécessaire. En tout cas, la personne la plus importante, c'est soi. Mais le narcissisme, c'est vraiment avoir cette vision. L'amour narcissique, c'est je t'aime, mais qui dit en fait aime-moi. Voilà.
Et donc pour vous, le narcissisme, c'est quelque chose qui est négatif ou qui peut être positif?
Ben, c'est dommage, c'est un très joli mot. En plus, ça évoque les narcisses et ça évoque le dieu Narcisse. C'est un dieu, un demi-dieu.
Un demi-dieu, je crois, au fils d'un dieu. Je pense que l'histoire de Narcisse déjà a été transformée parce qu'au départ, en fait, Narcisse se regarde, regarde son reflet et il plonge, mais en fait, il plonge plus pour aller à la recherche de lui-même. Et donc, quelque part, le narcissisme ou l'égocentrisme, c'est ça, c'est qu'on devrait tous aller vraiment aux profondeurs de nous-mêmes pour savoir qui on est, nos besoins, nos limites, et pouvoir les exprimer librement.
Non, mais après, il y plonge tellement qu'il s'y noie, quand même.
Oui, ça...
C'est ça, de l'histoire.
Mais peut-être qu'en fait, il se plonge dans ses côtés obscurs et il se noie lui-même dans ses côtés obscurs. Ça, je ne sais pas.
Qu'est-ce que c'est le narcissisme pour vous ?
Le narcissisme, pour moi, c'est penser à soi avant tout, s'observer, se regarder et s'écouter un peu trop.
Voilà. Est-ce que le narcissisme est nécessaire ou est quelque chose de négatif ?
Il faut faire antithèse, thèse, antithèse, synthèse, je sais pas. Oui, on peut imaginer que s'écouter c'est bien, mais quand c'est à l'excès, c'est moins bien. Voilà.
Par exemple, le président Trump, ça c'est un vraiment super bien exemple de narcissisme qui se pense juste à soi-même, à ses propres avantages et ne pas tenir compte avec de tous les côtés de personnes en fait, des grands égoïstes et à tout prix quoi.
Et donc pour vous le narcissisme c'est quelque chose de négatif?
Oui, je crois.
Et si je vous dis que le narcissisme peut être positif?
Peut-être, je ne sais pas, vous me devriez donner un exemple, je ne sais pas. Au premier vue, pour moi, c'est négatif.
Et c'est quoi le narcissisme pour vous?
Bah, c'est l'amour de sa propre personne, je crois. Bon, en tout cas, valoriser sa propre personne, peut-être la mettre un peu plus en évidence, je dirais, sans certitude aucune.
Et est-ce que le narcissisme est nécessaire?
Je pense que dans son construction mentale, en effet, on doit pouvoir aimer sa propre personne. Après, je ne sais pas par quel procédé ça doit se faire. Je pense qu'on s'aime tous un petit peu à notre façon. Et je pense que quand j'entends narcissisme, c'est plutôt de dire que ça va c'est un degré un petit peu plus loin que juste aimer sa propre personne et que c'est de l'ordre un petit peu de la maladie, dans le sens que des gens qui ont peut-être tendance à un petit peu apprécier leur personne et à peut-être la mettre un peu plus en évidence que ce qu'ils devraient nécessairement le faire.
Voilà, donc un micro-trottoir sur le narcissisme. Qu'est-ce que ça vous évoque, Sophie, et puis les chroniqueurs, hein, parce qu'on les a pas encore présentés, je pense. Donc nous avons ici autour de la table Hélène.
Bonjour.
Aline.
Salut.
Thomas, donc.
Bonjour.
Bonjour. Et moi-même, donc c'est Pascal. Alors Sophie, qu'est-ce que ça vous évoque ce micro-trottoir?
Alors j'étais assez étonnée d'entendre à quel point le narcissisme est vu comme quelque chose de assez négatif finalement dans l'esprit de beaucoup de personnes. Il s'est vu comme quelque chose, c'est beaucoup mêlé à l'égocentrisme, à l'égoïsme, alors que voilà, pour moi dans ma définition, c'est pas tout à fait ça que j'entends par narcissisme, et surtout ici si on est là pour parler de narcissisme sain, pour moi c'est plus un narcissisme sain, ce serait trouver justement un équilibre entre l'énergie qu'on investit pour soi et l'énergie qu'on investit pour l'autre, pour les autres, c'est-à-dire entre le regard qu'on a sur sa propre personne et le regard qui est tourné vers le monde. Donc c'est peut-être une définition un petit peu différente de la définition habituelle ou la plus de ce qui est dans l'esprit des gens.
Mais oui.
Et pour toi, cette énergie alors passe par le regard, quoi, par le regard qu'on a sur soi.
Oui, par le regard, par aussi pour moi par l'amour qu'on a vis-à-vis de soi ou l'amour qu'on a vis-à-vis du monde et vis-à-vis des autres. Et quand je dis énergie, c'est l'investissement, peut-être l'investissement qu'on met pour prendre soin de soi et l'investissement qu'on met pour prendre soin des autres, du monde. Et je pense que les deux sont liés. Mmh.
Moi, j'étais aussi assez étonné, mais c'est parce que j'ai fait des recherches, hein, pour l'émission. J'ai vu que, enfin, j'ai fait des recherches sur le narcissisme, et enfin, ce qui reflétait un petit peu ce micro-trottoir, c'était mes recherches sur Google. Dès qu'on tape narcissisme, on arrive sur pervers narcissique, on arrive sur des choses très négatives, quoi. Et j'ai fait un peu plus de recherches et je me suis rendu compte que il y avait certaines personnes qui parlaient de narcissisme plus sain, quoi. Et voilà, je trouve qu'il y avait quand même certaines réflexions dans le micro-trottoir qui allaient un petit peu vers ça, en disant que voilà, c'est quand même important de se connaître, c'est quand même important de penser à soi, sinon on n'avance pas. Et voilà, moi je trouvais ça assez juste, quoi. Maintenant, c'est quels sont les trucs, quoi, pour que cette conscience de soi soit positive, soit pas enrayée non plus, qu'elle soit dynamique. Ça, c'est des questions que je me pose, qu'elle fasse qu'on avance dans la vie, qu'elle soit pas non plus un truc qui nous referme sur nous-mêmes, et qu'elle soit quelque chose qui puisse nous ouvrir aux autres aussi. Voilà, ça, c'est un petit peu les questions que je me pose par rapport à ce micro-trottoir.
Oui, moi, ce qui me vient aussi, c'est l'idée que dans le micro-trottoir, on parlait plus des personnes qui avaient je sais pas si les mots sont justes, mais un narcissisme trop, trop haut ou trop gonflé. Et puis, il y a aussi toute une série de personnes qui ont ce qu'on appelle des failles narcissiques, c'est-à-dire un narcissisme trop bas ou trop faible, et que je trouve que c'est aussi quelque chose de très, très, très douloureux, très difficile à vivre. Mmh.
Et dans le cadre de ton travail, si je ne me trompe pas, tu es avec des personnes qui... Enfin, certaines personnes ont eu un trouble psychique. Et est-ce que... Enfin, comment tu aides les personnes par rapport au narcissisme? Est-ce que, comme tu disais, peut-être un narcissisme trop faible, est-ce que toi, par ta pratique du théâtre, tu arrives à développer ce narcissisme sain?
Alors, je vais d'abord faire peut-être une petite précision sur la troupe. Donc, le but de la troupe L'Appétit des Indigestes, c'est pas, en tout cas, ce n'est pas un but déclaré d'aider les personnes qui viennent jouer dans la troupe. C'est plutôt de transformer le regard du public sur les questions de normalité, de folie. Donc, je n'ai pas une intention, moi, personnellement, d'aider les personnes qui viennent participer à l'atelier théâtre. Par contre, je pense que le théâtre est un outil qui peut effectivement avoir des influences, mais j'ai envie de dire autant sur moi que sur les participants, quels qu'ils soient. Donc il n'y a pas une idée de soigner le narcissisme des gens par le théâtre. Ça, c'est vraiment important pour moi de le préciser. Mais par contre, je pense que une activité théâtrale peut effectivement avoir une influence, parce que être sur scène et avoir le regard d'autres personnes, pouvoir dire quelque chose qui parfois n'est pas entendu quand ce n'est pas dit sous une forme artistique ou théâtrale, je me dis que ça peut, de surcroît, j'ai envie de dire, avoir des effets positifs. Mais voilà.
Ah, on a... Ouais.
Vas-y.
Mais je propose oui comment oui c'est ça on va vite passer une pause musicale après ces premières pensées un peu générales pour après revenir. Yannick, musique, merci.
J'aime à me promener splendeur à venir et passer du château intérieur dans le radieux patio plein d'oiseaux et de fleurs entre les marbres chauds. Bah, il saigne le cœur. Le salon resplendit de lustres, de cristal, de musique, de cris sur la houle du bal. Dans la salle d'eau fraîche, peuplée de paravents, corps et linge se sèchent au doux soleil levant. J'aime à me promener dans la riche splendeur à venir et passer du château intérieur. Les escaliers s'envolent vers le dôme étoilé et les tapis s'immolent au satin des souliers. Dans le jardin d'hiver aux transparents alcools, voisine aux rocking chairs et ottomanes molles. Dans la bibliothèque luisent tous les trésors des anthropopithèques, des lointains astres morts. J'aime à me promener dans la riche splendeur à venir et passer du château intérieur. Dans la salle aux orgies pleurent les chandeliers sur les ventres polis, sur le feu des collier. Le foutre et la sueur baignent la soie des draps de brûlantes lueurs, mordorées Niagara. Tribades et bacchantes, colphées et priapes, dans la fureur méchante de leurs danses en grappe. J'aime à me promener dans la riche splendeur à venir et passer du château intérieur. Dans la chambre d'amour, au lit rouge à colonne, au mur bleu Singapour, un opéra résonne. La lumière ruisselle comme un foyer de rire, et les encensoirs mêlent le santal et la myrrhe. Dans le creuset de mort, la conception fidèle unit le fer et l'or pour la vie éternelle. J'aime à me promener dans la riche splendeur à venir et passer du château intérieur. Dans la chambre torture, le chrome et le nickel attendent leur pâture, d'anges et de mortels. Entre chair et éther, le supplice s'ordonne. Rouge été, noir hiver, enfer et ciel fusionnent. L'être peut-être voilà par-delà l'injustice. Dans l'azur sans idole du jardin des délices, terrible splendeur du meilleur et du pire. Au château intérieur,
et bien voilà, donc nous sommes de retour sur
Silence Radio.
Voilà. J'ai eu peur de me tromper tout d'un coup. Silence Radio, donc sur les ondes de Radio Panique, c'est 105.4 FM. Et comme je vous le disais tout à l'heure, donc Pierre Smet est arrivé. Donc notre invité, qui est donc psychanalyste, qui travaille au centre de santé mentale le SAS à Evere et peut-être à d'autres endroits, il nous le dira éventuellement tout à l'heure. Nous parlons de narcissisme en compagnie donc de Sophie Musel, metteur en scène à la troupe de L'appétit des indigestes, et avec nos chroniqueurs, donc Hélène, Aline, Thomas et Pascal. Voilà, et je propose tout de suite de tirer des mots. Ben oui, on va tirer des mots. Donc nos invités, en tout cas, vont tirer des mots et nous dire ce que ces mots évoquent pour eux. Voilà. Alors,
je propose deux par personne.
Deux par personne. Voilà. Sophie. Voilà. Elle va choisir un et deux mots. Voilà. Tu peux nous lire le premier mot.
Alors j'ai reflet.
Oui.
Et projection.
Reflet et projection. Ben, ça va ensemble peut-être. Je ne sais pas. On va voir.
Je veux dire maintenant.
Oui, tu racontes, improvises.
Alors, reflet et projection. Alors oui, c'est intéressant. C'est toujours. Il n'y a jamais de hasard. Si j'ai pêché ces deux mots. Pour moi, le mot reflet et projection, dans ma pratique, en tout cas, ce à quoi ça fait écho, c'est vraiment au lien qu'on essaie de créer avec le public. Donc, les spectateurs sont là en tant que spectateurs, mais aussi que acteurs de quelque chose, et les acteurs sont là en tant qu'acteur, et on essaye de créer une dynamique, un mouvement entre les acteurs et les spectateurs. Et donc l'idée, c'est effectivement que le public qui est là puisse, quand il regarde sur scène d'autres personnes jouer des choses, se projette et voit comme un reflet de lui-même. Finalement, on parle dans nos spectacles, on parle de la folie, de toutes les folies, et donc pour nous l'important, c'est que le public puisse vraiment se projeter dans ce qui est raconté par les personnes qui sont sur scène. Donc voilà, je sais pas si ça a un rapport avec le narcissisme, mais c'est ce qui m'est venu en lisant reflet et projection. Voilà.
Ben, on a parlé tout à l'heure des aspects négatifs du narcissisme. On dit souvent que les acteurs ont un ego surdimensionné. C'est un mythe, hein, de dire ça.
Je me suis beaucoup posé la question si c'était un mythe ou si c'était pas un mythe. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense qu'un acteur ou un professionnel du spectacle, sa survie financière, sa survie de profession dépend en partie du fait, et en grande partie du fait, d'être aimé, d'être apprécié par les autres. Donc, de ça, quel est finalement, quel est l'œuf et la poule, qu'est-ce qui fait quoi, ça c'est difficile à dire, mais c'est vrai que le métier d'acteur, comme d'autres métiers, a la particularité d'être un métier où le regard de l'autre est vital. Donc effectivement, peut-être qu'il y a quelque chose qui a besoin. En tout cas, je pense que si on est dans le monde du spectacle et qu'on n'a pas un narcissisme suffisamment solide, c'est un milieu qui est très 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 difficile.
Mais on s'oublie un peu soi-même aussi en jouant, non? En jouant avec quelqu'un d'autre ou en jouant un personnage, c'est aussi s'oublier. Peut-être.
Alors moi j'aime bien ce que tu dis, parce que je sais pas si c'est s'oublier, mais en tout cas pour moi dans la troupe, ce que j'essaie de créer, c'est le fait de faire partie de quelque chose qui est plus grand que soi. Mm-hmm. Et je me dis que si on arrive à effectivement s'oublier, pas s'oublier dans le sens de être quelqu'un d'autre et être un autre que ce qu'on est, mais s'oublier dans le sens de faire partie d'un projet plus grand que soi, et n'être que la pièce de puzzle, mais en même temps la pièce de puzzle qui est indispensable à ce que la pièce fonctionne, à ce moment-là, pour moi, on a gagné. Et je dis souvent aux acteurs, quand ils sont, parce qu'on travaille beaucoup dans les dans la troupe, des scènes où il y a des mouvements de cœur, donc de vraiment des groupes de personnes où chaque personne est importante. Et je dis souvent aux acteurs, simplement le fait de regarder quelqu'un d'autre, ça a autant d'importance que le fait de dire une réplique. Donc c'est vraiment pouvoir, oui, s'oublier soi et faire partie d'un projet plus grand que soi.
Quelqu'un veut rajouter quelque chose, Aline?
Non, moi, ça me rappelle un peu un texte que j'ai lu sur le narcissisme et qui parlait en fait de ce côté où Narcisse, il y a un côté finalement auto-réflexion et où il n'arrive pas à sortir de cette auto-réflexion. Donc c'est pas un truc qui n'attrait qu'aux apparences, quoi. C'est vraiment quelque chose de très intérieur aussi et que finalement c'est s'il y a rencontre avec l'autre qui a la possibilité un peu de transcender cette auto-réflexion. Et j'ai l'impression que ce qui se vit au théâtre, c'est sans doute un peu ça aussi, c'est à partir de quelque chose finalement de très introspectif, mais qu'on arrive à partager avec l'autre, parce que je crois aussi que même dans le processus d'écriture, finalement, un texte qui va être écrit par l'un va être joué aussi par un autre. Et donc, voilà, ça m'évoquait un peu tout ça, tout ce que tu nous partages. Oui,
tout à fait. Pour moi, c'est donner une dimension universelle au personnel. Donc, c'est vraiment partir d'une souffrance ou d'une joie ou d'une émotion personnelle. Et puis, effectivement, on fait ça dans les ateliers d'écriture. Donc, il y a une personne qui écrit, qui parle de son histoire, une autre personne qui écrit sur l'histoire de la personne. Et c'est une troisième personne qui va jouer cette histoire. Donc, on essaye de garder quelque chose de juste et de vrai dans le processus. Mais en même temps, on essaye d'universaliser la chose pour que, justement, le public qui le reçoit puisse entendre l'histoire comme si finalement c'était sa propre histoire, parce que les émotions, ce qui se vit, même si les déclinaisons de l'histoire sont personnelles, les émotions, je pense qu'elles sont communes à tout le monde.
Ah, on passerait à vous, Pierre Smet, si vous avez tiré deux mots.
Alors, j'ai pas encore tiré deux mots. Je vais tirer deux mots. Alors, frustration, ah oui, voilà, et connaissance de soi. Ah oui.
Ça va aller.
Ça va aller, oui. Oui, peut-être pour dire qu'effectivement, j'ai une pratique dans ce qu'on appelle un centre de santé mentale. Donc, c'est des centres dans lesquels tout le monde peut venir pour être entendu, être accompagné ou faire une thérapie. Et puis, j'ai une pratique aussi en privé. Donc, c'est vrai que c'est pas tout à fait quand même le même genre de public, de demande. Et que, pour ce qui est du centre, c'est vrai que souvent les gens qui arrivent, c'est quand même avec une image quand même très dévalorisée d'eux qui viennent, avec effectivement une impression qu'ils ne se connaissent pas, que finalement ils restent un étranger pour eux. Et du coup que ça entraîne une série de frustrations dans leur vie. Donc c'est vrai que là, il y a très souvent une demande. Enfin, il y a mais ce qui est quand même ce qui est important aussi, c'est quand même de voir comment. Maintenant, ça fait un certain temps que je travaille dans ce centre, ça fait plus de 20 ans. Et donc je disais ces derniers temps que j'étais frappé combien les demandes changeaient, et que par exemple il y a 20 ans, la grande majorité des gens qui venaient disaient: je viens vous voir, mais je ne suis pas fou, hein, je ne suis pas fou. Donc il fallait d'abord les rassurer sur cette question-là, et qu'aujourd'hui on n'entend plus du tout ça.
Non.
Plus du tout. Ah non, plus du tout, du tout, du tout. Non,
et
non,
qu'est-ce qu'on entend,
alors? Non, alors on entend. Non, non, ce qui se passe, c'est que. Ce qui se passe, c'est plutôt. C'est, enfin, disons que c'est un peu dans le même registre, dans le sens d'être complètement dépassé, donc quand même très souvent. Des gens ont des difficultés qui sont liées au travail, et donc ils sont perdus. Ils sont un peu fous. Ils savent plus quoi faire, quoi. Ils sont avec ce fameux mot là de burn-out, quoi. Donc je suis grillé, quoi. Je sais plus ce que je dois faire, quoi. Ils disent pas je suis fou, mais enfin il y a quand même quelque chose de comme ça. Mais donc moi je dirais justement que la folie comme ça, elle elle prend un autre contenu, une autre orientation, et mais ça entraîne quand même une série de souffrances, de souffrances graves, parce que finalement, autant ça c'était pas évident de se retrouver à l'hôpital psychiatrique, autant c'est pas non plus évident de se retrouver complètement largué dans la vie, et ne sachant pas très bien combien de temps on va rester au chômage, ni au CPS, ni en invalidité. Donc c'est quand même, moi je dirais que c'est une autre sorte d'enfermement, hein. C'est-à-dire que c'est un enfermement dans un système de lois et de dispositions. Et donc, je trouve que la question de l'enfermement, elle reste posée. Non, peut-être qu'on n'échappera jamais à l'enfermement, sauf qu'il faut chaque fois essayer de démonter ou de déconstruire comment il provoque justement des souffrances et des frustrations.
Ouais. Mais votre travail, alors, ce sera de reconstruire ou de construire un amour de soi, mais aussi une estime de soi, c'est d'aider les personnes, les accompagner dans leur travail, en fait. C'est eux qui travaillent à reconstruire l'estime qu'ils ont perdue ou qui est mise à mal. Et vous allez faire comment pour ça? Parce que...
Mais c'est vrai que, par exemple, le narcissisme, c'est intéressant parce que on sait que ça vient de la mythologie, donc... Ça vient des premières façons dont les hommes ont parlé de quelque chose, hein, qui était ce regard particulier, cette histoire particulière d'un homme pris dans son image, dans la beauté de son image, et puis qui en meurt quand même aussi. Je veux dire, c'est quand même pas rien, quoi. Donc moi je pense que justement le travail, c'est de par rapport aux deux mots là qui ont été donnés, c'était de pouvoir finalement poser la question de mais qu'est-ce que vous connaissez de vous? Comment vous avez appris à vous connaître? Qu'est-ce qui a été des expériences positives, négatives? Enfin, sans nécessairement passer par une espèce de trame familiale, c'est papa, c'est maman. Enfin, évidemment que la psychanalyse a apporté des choses avec l'Oedipe, mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment comment est-ce que quelqu'un dans la vie a rencontré ces questions. Et comment est-ce qu'il... Et donc, ça veut dire que subitement, il y a des moments où le fait de parler prend une autre consistance. Donc souvent, les gens disent quand même « Ah oui, j'ai déjà beaucoup parlé de ça, mais j'en ai jamais parlé comme ça. » Alors là, hop, il y a une petite fenêtre ou une porte qui s'ouvre.
Ça pourrait être un point commun, ça, entre la psychanalyse et le théâtre, la parole qui prend tout d'un coup une autre dimension, je pense.
Oui.
Et qui est peut-être libératrice, j'ai l'impression, que parce qu'on parle... Allez, d'un point de vue vraiment différent, qu'on assume, etc. Je pense qu'on peut s'émanciper par là, j'ai l'impression. On peut se redécouvrir, qu'on peut se poser de nouvelles questions, et que ça peut être très positif. J'ai cette impression-là.
Pour moi, le point commun aussi, c'est que dans les deux cas, il y a un regard de l'autre ou une oreille de l'autre, j'ai envie de dire, sur la parole, et que cette oreille est bienveillante. Et je pense que dire quelque chose, dans le cas de la troupe, c'est vrai que les gens parlent de leur propre vécu et le mettent sur scène, même s'il est déguisé, déformé, il est quand même sur scène. Ou dans la psychanalyse aussi, le fait de parler de soi et d'avoir une écoute... attentive, bienveillante, positive par rapport à ça, je pense que ça change beaucoup.
Mais c'est quand même assez étonnant que Freud ait parlé de l'inconscient comme l'autre scène.
Ah oui, mais c'est
l'autre
ça.
L'autre scène. Donc c'est-à-dire que finalement, parfois, que ce soit dans le rêve, ou les actes manqués, ou l'apsus, il y a des choses qui sortent, il y a des choses qui sont dites, et qui sont de nous, mais qui sont donc ce que Freud a appelé cet inconscient, donc c'est cette part de nous qu'on connaît pas et qui se manifeste quand même. Donc cette autre scène qui subitement vient devant cette scène du quotidien, alors qu'on s'y attend pas. Donc c'est vrai que c'est assez cette question de la scène, et enfin je trouvais que c'était quand même étonnant qu'il dise ça. Donc effectivement qu'il la cadre, mais qu'il la cadre dans quelque chose qui est une scène, quoi. Voilà, la scène.
Oui, c'est aussi la question de la représentation. Aline parlait tantôt que les personnes vivre un narcissisme, en tout cas, c'est se représenter beaucoup les choses. Déjà. Et la représentation théâtrale, on appelle ça comme ça, et c'est que c'est dans l'ordre de l'image devant nous qu'on regarde, quoi. Et j'avais une question par rapport à ça, et je suis en train de l'oublier. donc, oui. Non, je ne vois plus où je voulais en venir. Quelqu'un peut me sauver? 5, 4, 3, 2, 1...
Je ne suis pas encore dans tes pensées, ça va être difficile.
Thomas.
Mais peut-être pour rebondir sur la représentation, je pense que c'est vraiment important. C'est effectivement que ce soit devant un psy ou que ce soit sur une scène de théâtre, on se représente, c'est-à-dire on se présente une nouvelle fois. Et dans cette représentation, il y a quelque chose qui bouge parce que cette nouvelle fois où on se présente, où on découvre quelque chose qu'on ne savait pas sur soi, où on pose un regard un peu différent sur qui on est, et plus on se représente, plus on se connaît finalement.
Oui, moi j'ai retrouvé, ça y est, c'était. Donc on a des représentations et aussi on observe le monde extérieur, il y a plein d'images. Et puis, on projette aussi et on s'identifie. Et ça, je pense, c'est quelque chose d'important dans la construction de soi et pour avoir un narcissisme sain, de pouvoir s'identifier correctement à des personnes et ne pas le faire de manière tronquée, biaisée, enfin, et de le faire, de s'identifier à des personnes, pas à des personnes en tant que telles, mais à leur qualité, à leur valeur, à leur trait de caractère qu'on respecte. Et comme ça, il y a une différenciation qui se fait un petit peu par rapport à la personne. Et ça, c'est une question que je me suis vraiment posée en travaillant sur ce thème. Et pour les personnes qui sont un peu troublées psychiquement, c'est plus compliqué, je trouve. C'est un jeu de réajustement permanent, comme ça, de se dire, voilà, je ne suis pas tout seul. Il y a des gens autour de moi, ils peuvent m'apporter des choses, je peux peut-être en apporter. On est là et voilà, je m'identifie. Il y a des gens vers lesquels j'ai envie de me rapprocher, des gens vers lesquels j'ai envie de m'intéresser à ce qu'ils disent, etc. Mais en même temps, le contact avec l'autre est toujours un petit peu flou, je trouve, dans le trouble mental. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis, quoi. C'est un petit peu flou, quoi. Et donc, je peux prendre des choses qui, en fait, ne sont pas des choses qui m'intéressent. Et c'est comment faire le tri. Ça, c'est une question que je me pose. Je ne sais pas si dans le théâtre, vous posez ce genre de questions quand peut-être l'identification est trop directe avec la personne avec qui vous jouez. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Comment on joue avec cette personne-là? Parce que je me sens trop pris parce qu'il me renvoie ou... Et dans la psychanalyse, je crois que c'est une question qui se pose beaucoup, en fait, je pense. Ou peut-être pas dans votre psychanalyse. Mais... Je ne sais pas, c'est des questions que je me pose.
Dans le cas du théâtre, ça m'évoque, c'est cette question justement. C'est comme ça que petit à petit on a décidé que les gens qui écrivaient ne jouaient pas leur propre rôle, ne parlaient pas devant un public de ce qu'ils avaient écrit, parce que justement à ce moment-là la prise de distance et l'humour qu'on pouvait avoir, ou le regard un peu décalé qu'on pouvait avoir sur le texte était très difficile à obtenir. Et donc là, je pense qu'il y avait effectivement, quand on n'avait pas encore mis cette règle-là, quelque chose qui pouvait finalement coller et éventuellement déraper. Moi, c'est ça que ça m'évoque.
C'est-à-dire que c'est Rimbaud, hein, qui dit « je suis un autre », donc c'est-à-dire que on a un rapport à soi qui est aussi un rapport à un autre. C'est-à-dire je peux avoir un regard sur moi, je peux m'entendre, et donc du coup j'attrape un regard un peu justement comment dirais-je, décalé comme ça de ça. Et l'autre chose aussi, c'est peut-être ça, c'est une question quoi comme maintenant, c'est la question du texte. Bon, maintenant, il y a les stand-up, enfin, il y a une série de choses où on ne sait pas finalement si c'est du texte appris ou pas. Bon, si on voit le spectacle plusieurs fois, on voit que des fois, on pensait que c'était complètement spontané. Et en fait, pas du tout. C'est du spectacle, on a l'impression qu'il redit les phrases les unes après les autres, quoi. Alors que on a l'impression que c'est de l'expression, quoi. Mais ici, je pense que pour soi, finalement, le texte, il est toujours à se demander c'est quoi ce texte? Qu'est-ce qu'on a voulu dire? Quel était ce texte? Donc il est chaque fois manquant, donc il y a chaque fois quelque chose qui est... J'essaye de me rapprocher du texte que je voudrais dire. Et maintenant, d'ailleurs, je pense que c'est une des grosses questions, c'est comment est-ce qu'on peut dire les émotions? Si j'ai une émotion, oui, mais j'ai une émotion, mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Une émotion de tristesse peut très bien être croisée avec de la joie ou avec d'autres émotions. C'est pas quelque chose qui est noir et blanc, une émotion. On peut être en colère pour différentes raisons, enfin, des séries de choses. Donc, je pense que c'est ça qui est pas. Je pense que un courant de la psychanalyse, c'est clairement que prendre le fait qu'on est toujours occupé, c'est dire, en fait. toujours essayer. Les mots sont là pour essayer de dire. Qu'est-ce qu'on essaye de dire, quoi. C'est ça, là. C'est pas tous les courants analytiques, mais en tout cas, certains, c'est comme ça. Donc, il y a toujours un petit peu cette espèce de... Comment on va dire ça, d'embarras, comme ça, d'être un peu entre ce qu'on pense, ce qu'on sent et ce qu'on dit. Il y a encore une vache de différence. Hein. Des fois, on pense des choses, mais au moment où on le dit, on se dit, c'est pas ça que je voulais dire. Mais pourtant, on le dit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé entre ce que j'ai pensé et ce que je dis quand même? C'est ça, c'est...
Je propose de faire un petit break et on écoute la chronique littéraire de Laurence Martin.
Bonjour Laurence.
Bonjour Thomas.
Alors Laurence, qu'as-tu lu pour nous ce mois-ci?
Alors, le premier livre, ça s'appelle « Qu'est-ce qui monte et qui descend ?» de KNL, chez Marabulle. C'est un roman graphique sur le trouble borderline. Donc en fait, ça a été fait avec des aquarelles et des feutres fluo. Elle nous raconte différentes hospitalisations, que ce soit en clinique psychiatrique ou en hôpital psychiatrique. Et en même temps, ça, ce que c'est le trouble borderline, sa vie en dehors, les rechutes, avec pas mal d'humour. Voilà, donc c'est un très bel objet en plus d'être intéressant. Le deuxième livre, ça s'appelle Autisme j'accuse de Hugo Auriot. Alors Hugo Auriot, c'est un autiste qui est assez connu dans les médias. Il avait déjà écrit des livres sur son parcours. Et là, c'est plus un cri du cœur, on va dire, contre la façon dont la société traite les autistes en France. Parce qu'ils considèrent que si les autistes sont handicapés, c'est parce que la société les traite, ne reconnaît pas leur intelligence, parce que pour lui, ils ont une intelligence particulière qui est tout aussi valable que celle des non-autistes, des neurotypiques, comme on dit, et une intelligence qui est reconnue notamment dans la Silicon Valley aux États-Unis. Voilà, donc je rappelle les titres, c'est Autisme j'accuse et Qu'est-ce qui monte et qui descend.
Merci. Oui.
Eh bien voilà, donc on est de retour à Psilence Radio, sur les ondes de Radio Panique. Nous sommes nous avons deux invités autour de la table, Sophie Musel de la troupe de l'appétit des indigestes et Monsieur Pierre Smet, donc qui est psychanalyste. Voilà, donc on a un peu fait le tour du narcissisme, si c'est possible. Peut-être une dernière ou deux dernières questions parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Je ne sais pas, je ne sais pas, Aline, peut-être une question pour nos invités.
Ben oui, moi je suis repartie dans ce truc où finalement la transcendance de toute cette auto-réflexion et ce truc très sur nous-mêmes, on en sort dans la rencontre à l'autre, mais c'est quelque chose, je trouve, qui parfois justement n'est pas évident. Peut-être que ça peut être aussi plus sécurisant en fait, cette auto-réflexion. Et qu'est-ce qu'on peut donner comme piste justement pour... aller vers la rencontre, réussir à transcender cette auto-réflexion et structurer sur nous-mêmes pour le faire sans que ça nous mette à mal aussi.
Je suis pas invité, mais j'ai envie de répondre. Allez, serait éviter l'interprétation, non? Ce serait vraiment d'arrêter les interprétations. Voilà, ce serait ma réponse à moi.
C'est vrai, c'est à la fois. En fait, je pense que c'est à la fois éviter des interprétations, mais on va dire trop d'interprétations, et en même temps, c'est quand même parvenir à se mettre à distance.
Oui.
Parce que quand même, on voit bien qu'aujourd'hui, l'enjeu avec Internet et tout ça, par rapport aux enfants et par rapport à l'image, c'est ça. C'est que il faut un peu un regard extérieur pour que un peu critique, un peu un sens critique, quoi. Donc la question, c'est quand même comment trouver une façon effectivement de faire des interprétations, mais pas d'être débordé par ça. Ça, c'est vrai que moi, j'ai déjà au centre rencontré plusieurs personnes, c'était plutôt ça la question, c'est qu'ils en avaient trop d'interprétations. Et finalement comment faire avec ça, quoi. Ouais.
Oui, et puis c'est tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur le langage. C'est le langage qui à la fois nous rapproche et nous met à distance. Et comment finalement, par le langage, trouver cette juste distance sans coller à l'autre dans des interprétations de langage ou sans se mettre complètement à l'écart et être dans quelque chose qui tourne sur nous-mêmes et trouver cette, par le langage, trouver cette place finalement.
J'avais entendu un truc assez beau il n'y a pas longtemps par rapport au langage et par rapport à la rencontre à l'autre. C'est quelqu'un qui disait que le langage pouvait devenir un bien commun entre deux personnes. Et je trouvais ça vraiment beau, quoi. Parce que c'est une position où on peut vraiment parler, puis écouter l'autre, en se mettant, en se retrayant quelque part, mais dans un lieu qui soit vraiment sécurisé, qui soit plein de chaleur, qui soit, où l'autre est pleinement présent. Voilà, enfin, je trouvais ça assez beau ce qu'il disait, moi, par rapport à ça, au bien commun, partagé, quoi. Ça demande, je pense, des deux personnes une certaine conscience, quoi, une certaine éthique de la relation. Même, ça peut être inconscient, ça peut être fait par l'éducation, par le simple plaisir qu'on a avec, d'être avec quelqu'un d'autre aussi. Je crois que ça ne faut pas forcément être un intello pour faire ça, quoi. Mais voilà, on est quand même dans une société assez particulière, quoi, où la communication, elle est présente de A à Z dans plein d'aspects de la vie, quoi. Et je pense qu'on nous demande déjà, c'est une exigence de savoir bien communiquer, quoi. Et savoir bien communiquer, ce n'est pas, enfin, selon les exigences que la société édicte. Donc voilà, ça aussi, c'est une pression, je pense, sur les échanges que les gens ont entre eux, quoi. Moi, j'ai cette impression-là. Je sais pas ce que vous en pensez.
Mais peut-être ce qu'il faudrait dire quand même, c'est que dans le narcissisme, il y a aussi la question de l'amour.
Oui. Mmh.
Voilà, c'est quand même qu'ils s'aiment. Bon, donc là aussi, je veux dire que avec l'amour, c'est on peut avoir toute une série d'interprétations sur ce qui occupait à se passer ou pas. Mais ce qu'on voit quand même, c'est qu'effectivement, il n'y a pas, même si, comme tu dis, il peut y avoir quelque chose qui est commun. Bon, ben ça peut exister à un moment, mais après à un autre moment prend une autre tournure, un autre contenu, et donc il faudra reparler et voir si on est toujours sur quelque chose qui est commun ou pas. C'est ça qui est quand même. Je pense que c'est qu'il n'y a pas quelque chose qui est donné une fois pour toutes, quoi. Même si à certains moments c'est extraordinaire, donc on entend ça de certains coups. J'ai pas besoin de parler, l'autre comprend directement ce que je veux. On voit bien que c'est tant mieux si ça existe. Mais enfin, ça, on voit bien aussi que c'est pas quelque chose qui existe comme ça ad vitam aeternam, quoi. Il va falloir de nouveau reparler, se redécouvrir, toujours être là-dedans, quoi.
Moi, j'avais envie aussi de... Parce que je trouve que l'humilité a un peu le vent en poupe, comme ça, on nous dit il faut être humble et tout, c'est bien d'être humble et tout ça. Ou alors, ça a peut-être une connotation un peu plus négative pour certains. Je sais pas très bien encore, mais je me demandais si le narcissisme sain, c'était un peu le but, comme ça, d'arriver à une certaine humilité face aux autres, face à la vie.
Mais pour moi, là je rebondis sur ce qu'on a dit tout à l'heure, pour moi, si l'humilité, c'est comprendre qu'on fait partie de quelque chose qui nous dépasse, quelque chose de plus grand que nous, et ça vaut aussi bien en théâtre que dans la vie de tous les jours, j'ai envie de dire. Alors, pour moi, le mot humilité, bien qu'il ait certaines connotations, est très juste. Maintenant, si c'est se mettre se sous-estimer ou ne pas reconnaître ses qualités, alors pour moi, il est très faux. Mais si c'est vraiment l'idée de, avec tout ce que je suis, avec toutes mes qualités, je sais que je ne suis pas tout et que je fais partie de quelque chose qui est plus grand, alors je le trouve très juste.
Ok.
Eh bien maintenant, je propose de clôturer l'émission et de passer la parole à Pascal qui va nous lire son avant-goût de la prochaine, non ?
L'eau à la bouche.
L'eau à la bouche.
L'eau à la bouche est la rubrique donc, qui présente la prochaine émission. Et le mois prochain, donc, nous accueillerons un invité de marque puisqu'il s'agit de Mouad qui est chroniqueur à Petit Lance Radio. Mouad, c'est le tout dernier de l'équipe. Il est arrivé il y a 2 mois via donc, Yannick, d'ailleurs notre technicien du jour. Mais pourquoi Mouad pour notre invité du mois de juin ? D'abord, parce qu'il a plein de choses à nous dire. Son enfance, son adolescence, son âge adulte, rythmé par le rejet, les difficultés scolaires, de travail, d'incompréhension. Bref, la souffrance, il connaît et il va raconter. Raconter un peu de sa vie, dont l'autisme fait partie. Les problèmes du spectre de l'autisme, on en parlera donc avec aussi le discours de nombreuses associations qui se penchent sur l'autisme à Bruxelles et en Belgique. Et nous essayerons d'ailleurs d'ici là de trouver un deuxième invité ou une deuxième invitée, donc pour nous parler de ces vies de personnes qu'on dit autistes. Voilà.
Et voilà, Silence Radio, c'est terminé pour aujourd'hui. On vous dit tous au revoir. Au revoir, Pierre Smets.
Merci, au revoir.
Au revoir. Au revoir, Aline.
Bye bye.
Au revoir.
Et c'est rediffusé donc.
Vendredi.
Vendredi, c'est ça.
Mais lequel?
Mais lequel?
C'est le troisième.
Ouais. Oui, c'est ça, c'est le troisième. Le troisième vendredi du mois.
À 10.
Alors, à
www.radiopanique.fr.
Ce sera le mot de la fin.
Avec un k.org. Et toutes les infos sont dessus.